Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de Noël est le seul jour de l'année, avec la commémoration de tous les fidèles défunts, où l'Église demande aux prêtres de célébrer trois messes. Ces trois messes, vous le savez, sont dites en l'honneur des trois naissances de notre Seigneur. Sa naissance éternelle dans le sein du Père, sa naissance historique dans la crèche, et puis sa naissance spirituelle dans nos âmes. Mais on peut voir une autre raison à ces trois messes. L'Église veut marquer, ou du moins suggérer d'une manière toute spéciale, les rapports entre Bethléem et l'Eucharistie, entre Noël et le sacrifice de la messe. La naissance du Sauveur dans la crèche de Bethléem est inséparable du sacrifice eucharistique, parce que, au fond, le mystère de Noël se continue par l'Eucharistie. Noël et l'Eucharistie se complètent l'un l'autre. Alors, si vous le voulez bien, ce matin, considérons pendant quelques instants ces liens très profonds qui unissent Noël et la Sainte Eucharistie. Alors, bien sûr, il y a d'abord le nom même de Bethléem, qui signifie, vous le savez, en hébreu, la maison du pain. Jésus naît à Bethléem, non seulement parce que Bethléem était la cité du roi David, dont il est le descendant, mais surtout parce qu'il est le pain vivant qui descend du ciel pour nous nourrir, le futur froment des élus, comme dit la Sainte Écriture, qui vient habiter au milieu de nous pour nous enseigner, nous sauver, et finalement pour se donner à nous en nourriture, dans la Sainte Hostie. Nous lirons tout à l'heure dans l'évangile de la messe du jour, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». C'est le mystère de Noël, de l'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire « Dieu avec nous ». C'est ça Noël, c'est l'incarnation. Et à la fin de l'évangile de saint Matthieu, avant de remonter au ciel, notre Seigneur dit à ses apôtres « Je suis avec vous ». Vous voyez, c'est le même mot, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et c'est le prolongement de son mystère de l'incarnation. Et cela se réalise par le mystère de la Sainte Eucharistie. Et au fond, c'est le même mystère. Alors on peut dire qu'à Noël, par la naissance de Jésus, c'est d'une certaine façon l'Eucharistie qui est semée. Le froment, vous le savez, avant d'être moulu et transformé en pain, doit être semé, jeté en terre. Eh bien, le Verbe de Dieu qui s'incarne, qui se fait homme, qui vient habiter sur terre, c'est le froment eucharistique, petit grain tout humble, caché, qui est semé en terre pour y germer, pour mûrir, pour grandir, rayonner, jusqu'à ce qu'il soit moissonné, broyé dans la passion, pour devenir un pain nourrissant, un pain fécond, le pain de nos âmes. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Alors peut-être n'avons-nous jamais pensé à cela. Et c'est pourtant une vérité très éclairante et qui peut nous aider à mieux prier devant la crèche pendant ces jours-ci et à mieux communier à la messe. En naissant dans la crèche, Jésus prépare déjà son Eucharistie, parce qu'il l'envisage comme le complément, l'achèvement de tous ses mystères. Et en effet, en s'incarnant, en naissant sur la paille de l'étable de Bethléem, le Fils de Dieu s'est uni à l'homme. Il en a pris la nature, il l'a uni à sa personne divine. C'est le mystère de l'incarnation. Et puis, pendant sa vie, il a établi avec les hommes une union de grâce, d'exemple, de mérite. Lui qui est plein de grâce et de vérité, il nous a communiqué sa grâce et sa vérité. Et il nous a donné l'exemple de toutes les vertus. L'humilité, la pauvreté, la patience, l'obéissance, la charité surtout. Pour finalement, du haut de la croix, nous attirer tous à lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est Jésus qui dit ça dans l'évangile de saint Jean. Mais c'est dans l'Eucharistie seulement qu'il consomme avec nous l'union la plus parfaite dont l'homme soit capable ici-bas. Ici-bas, parce qu'au ciel, ça sera différent. Mais ici-bas, l'union qui est formée par la Sainte Eucharistie, par la communion, c'est l'union la plus parfaite que nous puissions connaître. Autrement dit, en ce jour de Noël, Jésus commence à vivre au milieu des hommes. Le Verbe de Dieu commence à vivre au milieu des hommes. Mais c'est par l'Eucharistie qu'il perpétue sa présence jusqu'à la fin du monde. À Noël, le Verbe se fait chair, mais dans l'Eucharistie, il se fait pain pour nous donner sa chair, non plus seulement pour se transformer en nous, c'est ce qu'il fait dans son incarnation, mais pour nous transformer en lui, c'est ce qui se passe quand nous communions. Si l'on veut bien comprendre toute la richesse de la vie chrétienne, réaliser à quelle destinée extraordinaire nous sommes appelés, il ne faut pas perdre de vue cette pensée divine, ce plan merveilleux que le Seigneur s'est proposé d'accomplir en venant sur notre terre. Notre Seigneur veut d'abord une union de grâce avec nous, qu'il opère par les mystères de sa vie et de sa mort, de Bethléem jusqu'au calvaire et même jusqu'à l'ascension. Consortes naturae divinae, c'est le mot de saint Pierre. Dieu nous donne une participation de sa vie divine, c'est ça qu'opère la grâce. Mais notre Seigneur veut aussi une union de corps et de personne qu'il réalise dans la Sainte Eucharistie. Et là, il se donne lui-même à nous, en personne, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et puis enfin, préparé par l'une et l'autre de ces deux unions, il veut la consommation de notre union avec lui, une consommation définitive, parfaite, dans la vision béatifique, quand nous serons dans la gloire du ciel. Ainsi, vous le voyez, dès son berceau, et même on peut dire dès sa conception, notre Seigneur a préparé secrètement le sacrifice sacramentel de son Eucharistie. Car ces rapports de la naissance du Sauveur à Bethléem avec l'Eucharistie envisagée comme sacrement se retrouvent aussi avec l'Eucharistie prise comme sacrifice. Vous savez que l'Eucharistie désigne à la fois le sacrement, le fruit qu'on obtient par la communion, et puis le sacrifice, la sainte messe dans laquelle notre Seigneur est consacré, dans laquelle la présence réelle est consacrée. Et en effet, celui qui naît dans l'étable, c'est le futur agneau pascal, et c'est même pour cela qu'il est né, pour être l'agneau pascal, celui qui va racheter les péchés du monde. Et à la crèche, déjà, il s'offre en sacrifice. C'est déjà le début du sacrifice, c'est le premier cri de son cœur, comme nous le révèle saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. « Hostias et oblationes noluisti. » Père Saint, dit Jésus, vous ne voulez plus des hosties et des sacrifices de la loi ancienne. Et c'est pourquoi vous m'avez donné un corps, alors j'ai dit, me voici. Et ce corps, ce petit corps que la Vierge Marie dépose dans la mangeoire de la crèche, c'est la condition pour qu'il puisse être immolé, pour qu'il devienne la victime immolée sur la croix. Et ce caractère de victime est d'ailleurs tellement manifeste dans la personne de notre Seigneur que lorsqu'il l'a aperçu au premier jour de sa vie publique, saint Jean-Baptiste l'a désigné tout de suite sous son nom d'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Et ce sacrifice que notre Seigneur a commencé à Bethléem, qui va se consommer sur la croix, eh bien il se prolonge, il se renouvelle aussi sur l'autel à la Sainte Messe. C'est le même sacrifice, il n'y en a pas deux. À chaque messe, on peut dire que Jésus renaît vraiment, sous les espèces sacramentelles cette fois, mais comme il est né dans la crèche, de la même manière, d'une certaine manière. Et il renouvelle le sacrifice du calvaire pour nous permettre d'y être associés, parce que nous, nous n'y étions pas. Et l'hostie que nous recevons, c'est donc à la fois l'enfant Jésus de la crèche et la victime du calvaire. Et c'est pour cela que le prêtre, avant de nous distribuer le corps vivant de Jésus, nous le présente en redisant les paroles de saint Jean-Baptiste, « Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi ». Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Alors, on comprend qu'à la messe, tout comme à l'étable de Bethléem, et comme c'était aussi le cas au pied de la croix, les anges sont là, invisibles sans doute, mais ils sont bien là, qui louent et qui chantent notre Seigneur, présent dans la Sainte Eucharistie, comme il était présent dans la crèche. Gloria in excelsis Deo. L'Église a voulu mettre ces paroles des anges à Noël dans le Gloria de la messe, dans la Sainte Messe, dans la liturgie de la messe. Le parallèle entre la crèche et la Sainte Eucharistie ne s'arrête d'ailleurs pas là. Voyez comme dès la crèche, Jésus commence à pratiquer les vertus de l'état qui est le sien dans le Saint-Sacrement. À Bethléem, en effet, il cache déjà sa divinité pour nous apprivoiser en quelque sorte, pour se faire plus proche de nous. Il voile l'éclat de sa gloire, il lit sa puissance sous la faiblesse d'un petit enfant qui ne sait pas encore parler. Qu'est-ce qu'il y a de plus aimable qu'un petit enfant ? Et cela, comme le dit la préface de Noël, pour que nous soyons ravis par lui en l'amour des choses invisibles. Jésus se fait petit enfant, il se fait visible, pour que nous soyons ravis en l'amour des choses invisibles, que nous acquérions davantage l'esprit surnaturel. Or, dans l'Eucharistie aussi, Jésus cache sa gloire et sa puissance. Il le fait cette fois sous les frêles espèces du pain et du vin. Et là aussi, il veut être muet pour augmenter en nous la foi et l'esprit surnaturel, et puis pour confondre l'orgueil des humains. C'est le même Dieu caché dans un cas comme dans l'autre. « Vere tuus Deus absconditus » chante Isaïe dans les prophéties qui annoncent la naissance du Messie. Et nous disons dans l'Adorotée, l'hymne au Saint-Sacrement, « Adorotée domine latens deitas », nous vous adorons Seigneur, déité cachée, divinité cachée. Vous voyez, c'est un Dieu caché. Et puis, dans les tables, Jésus n'est pauvre, dépouillé de toute possession. Il n'y a même pas de place pour lui à l'hôtellerie. Et ce sont les bergers et les mages qui doivent venir pour lui faire l'aumône. Eh bien, sous l'apparence de la Sainte Hostie également, il s'est dépouillé de tout, y compris même de ses traits humains, attendant l'aumône de nos prières et de nos visites, et cela pour nous apprendre l'humilité, la sainte pauvreté, le dépouillement. Et puis encore, nous trouvons dans la crèche l'inauguration du culte eucharistique, dans son acte principal. L'acte principal du culte eucharistique, c'est l'adoration. Eh bien, à la crèche, il y a des adorateurs. La Vierge Marie et Saint Joseph sont les premiers adorateurs du Verbe incarné. Leur adoration est celle de la foi et de l'amour. On vient de le lire dans l'Évangile. La Vierge Marie conservait toutes ces choses en son cœur. Elle les méditait, l'adorait. Et puis bientôt, les bergers et les mages viennent eux aussi lui offrir leurs présents et leurs adorations. C'est l'adoration d'hommage. Eh bien, dans l'Eucharistie aussi, nous trouvons la même chose. La Sainte Eucharistie, c'est le rendez-vous de tous les chrétiens, petits, grands, pauvres, riches, tous ceux qui veulent adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Tous viennent à Jésus hostie pour lui rendre cette double adoration, l'adoration intérieure de la foi et de l'amour, et puis l'adoration extérieure du culte public qui s'exerce dans la magnificence des cérémonies liturgiques et puis dans les processions. Christus natus est nobis, venite adoremus. Vous voyez que c'est bien le même mystère, la même réalité au fond. C'est le même plan divin derrière tout ça. Alors pour conclure, mes frères, c'est la Vierge Marie qui nous donne aujourd'hui, en ce jour de Noël, le Verbe incarné. C'est d'elle qu'il est né. Et au pied de la croix, ce sera encore elle qui va recueillir son sang rédempteur et qui va nous le communiquer. Alors il nous faut demander à la Vierge Mère d'être aussi notre médiatrice à la Sainte Messe et à la Sainte Communion, qu'elle prépare nos âmes de sorte que nous recevions Jésus-Christ, Jésus hostie, avec un cœur régénéré, qu'il renaisse en nous à chaque communion, comme il est né à Noël, qu'il naisse dans nos cœurs, qu'il purifie nos âmes de toutes leurs souillures. Et c'est ce que nous demandons précisément dans la post-communion de la messe de l'aurore, la messe qui est en train d'être dite. Je vous en lis la traduction, la post-communion. « Faites, Seigneur, que nos âmes soient régénérées par la nouvelle naissance de celui qui se donne en ce sacrement. voyez comme la liturgie fait bien le lien entre la naissance de l'enfant Dieu et le sacrement de l'Eucharistie. Que nos âmes soient régénérées par la nouvelle naissance de celui qui se donne en ce sacrement, lui dont l'admirable nativité a détruit le vieil homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.